Chapitre 8. Salut la nouvelle. Valentine, c'est ça? Moi, c'est Jonathan. Tu es français? Demanda Valentine en serrant la main au jeune homme qui se présenta à la porte de sa nouvelle demeure lorsqu'elle sonna. Non, je suis belge. J'ai vécu en France récemment toutefois. J'étais policier à Bruxelles, mais après 10 ans de service, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai étudié dans une école d'informatique chez vous à Lyon pour devenir web développeur. Ça fait longtemps que tu habites dans le co-living? Interrogea Valentine. 1 mois. Je pars en Italie dans quelques semaines. En vérité, je suis dresseur Pokémon, et un rallye se tient à Rome. Il y a un safari dans le forum pour attraper des Pokémon antiques, puis nous allons livrer un combat épique dans les arènes du Colisée qui a été privatisé pour l'occasion. J'anime une des communautés les plus actives en France et en Belgique. Nous sommes 300 dans le groupe. Je suis venu en Catalogne pour réseauter avec les entraîneurs du Barçamon, le club de dresseurs de Barcelone. C'est presque un boulot à plein temps. Web développeur, c'est juste ma couverture pour voyager. J'adore quand les gens me dévisagent comme tu le fais, je jette-t-il en éclatant de rire. Pardon, c'est hors de commun ta vie? Policier, webdev, chasseur de Pokémon, belge? Attends de rencontrer les autres zouaves de la maison, avertit Jonathan. Le plus loufoque, c'est le chat. Lui aussi, c'est un nomade. Chaque jour, il traîne chez un voisin différent. Ce soir, ça devrait être assez calme. Il y a 2 autres nouveaux qui arrivent après-demain aussi. Nous organisons un pot de bienvenue sur la terrasse. Ça vous donnera l'occasion de tous nous rencontrer. Jonathan lui fit visiter la maison. Au rez-de-chaussée se trouvaient une douzaine de chambres, chacune avec sa salle de bain. À l'étage, la cuisine et le séjour ouvraient chacun sur une immense terrasse aménagée avec des canapés, des tables, des hamacs, des plantes vertes et une table de ping-pong. La salle de travail était nichée comme un grenier au tout dernier étage. On n'y accédait que par un escalier extérieur. Elle était familièrement appelée le chapiteau, par la tribu de bohémiens du numérique qui s'était sédentarisée dans ces lieux. Ce n'était pas flambant neuf. C'était même un peu décati. Mais c'était confortable. Valentine défit sa valise et patiemment s'évertua à trouver une place pour chaque chose. Sa bouillotte renard trôna magistrale sur la table de chevet. Seulement ce geste accompli et la valise entièrement vidée, se sentit-elle enfin arrivée. Elle sortit faire des courses. Valentine venait d'emménager à Barcelone, à Poble-Sec, dans un quartier tout en longueur qui se faufilait depuis le port, entre la vieille ville au nord et la montagne de Montjuïc au sud. C'était une ancienne zone ouvrière qui avait entamé le virage de la gentrification, tout en étant encore relativement préservée du flot des touristes et des magasins aux décorations branchées. Il n'y avait rien à y voir. Poble-Sec n'était sur le chemin de rien. Un téléphérique permettait d'éviter le district pour grimper directement au Mirador et au château de Montjuïc, admirer le panorama. Il n'y avait guère que la rue piétonne Carrère des Blais où les estivants venaient en nombre traîner leur tennis le soir pour picorer des pinchos, sur les tables dispersées au milieu de la chaussée et munies chacune du sacro-saint distributeur de papier absorbant. Tout le reste de ce quartier résidentiel était d'une grande tranquillité. Les rues témoignant de l'ancienneté de cette partie de la ville étaient biscornues et se refusaient à suivre le plan rectiligne caractéristique de Barcelone. Des escaliers et des petites places ombragées s'éparpillaient au hasard. Les habitations étaient basses, les rues étroites, et l'on commençait à y trouver des maisons et des jardinets. C'était quelconque. Il demeurait quelque chose dans l'air de populaire et de convivial. Poble-Sec, comme son nom l'indiquait en catalan, était un ancien village que l'urbanisation avait englouti. Brooklyn à New York est maintenant Poble-Sec. Valentine témoignait d'une paradoxale constance pour venir s'établir dans des mégalopoles et d'y pourtant rechercher les atmosphères les moins denses. C'était le dilemme de vouloir l'effervescence de la grande ville sans sa population. Des platanes rachitiques et assoiffés arboraient les allées. La végétation, les immeubles, le pavement, tout était un peu vétuste, un peu crasseux, un peu bancal. S'en dégageait le charme suranné des villes du sud. Sur les façades colorées alternaient les rouges, les roses, les oranges. Des balcons de fer forgé, diverses plantes s'émancipaient de leur peau et pendaient paresseusement, ombragées de stores écarlates, fatiguées de soleil. On passait alors un boulevard bordé d'édifices, coloré par la brique et encadré de pierres apparentes grises ou beiges. Les drapeaux indépendantistes, rouges, or et bleus, suspendus aux balustrades, venaient rehausser les persiennes d'un vert d'eau délicat. Le flâneur se retrouvait alors dans le damier régulier des voies perpendiculaires de Barcelone, où chaque pâté de maison octogonale se fondait dans l'uniformité du plan d'urbanisme qui avait façonné la ville depuis le milieu du XIXe siècle. Les grandes artères donnaient à voir, lors des beaux jours, et ils étaient nombreux, à une extrémité la mer, à l'autre les montagnes. La cité était spectaculaire. Le passant laissait courir son regard de façade en façade, admirant les guirlandes fleuries en sgraffite, les stucs ou les balcons arrondis en grès adornant les frontispices. Des galeries centrales, hautes de 2 étages, s'avançaient en ouvrant de larges baies sur les avenues. Les styles classiques, néo-gothiques, modernistes, se relayaient, engendrant la fascination. Alors, étourdi par tant de merveilles architecturales, le Badeau se perdait dans un dédale de ruelles de la Ciutat Vella. Barcelone était à la fois monumentale et confidentielle, ses artères grandioses et ses rues étriquées. Le promeneur levait les yeux et apercevait au travers des linges pendus et du lierre qui dégringolait des fenêtres, un coin de ciel bleu. Il s'enfonçait dans la venelle et les immeubles se resserraient sur lui. Du labyrinthe encombré de motos mal garées montaient les effluves des cuisines, de l'urine et des poubelles aussi. Les coupes-gorges recelaient de restaurants, de bars, d'échoppes minuscules, tantôt vieillots, tantôt contemporains. Leurs vitrines épousaient les arches des bâtiments. Parfois, il n'y avait rien que de vieilles portes cochères, des rideaux de fer tagués et des garçons qui traînaient. Et soudain, au détour d'une église, qui semblait enchâssée dans le lacis de la citadelle, il l'apercevait enfin, la mer. Une odeur d'abord, celle du sel. Puis venait l'air du large, les palmiers qui se dressaient, les yachts rangés dans la marina, les vélo-taxis, les sourires insouciants, les bicyclettes, les tenues qui se faisaient plus légères, les vendeurs à la sauvette, et, d'un coup, la plage apparaissait. Le regard embrassait cette étendue d'or et d'azur. C'était la ville, mais c'était la mer. C'était la ville parce que c'était la foule partout. C'était la mer parce que c'était l'appel du large. Une envie d'oisiveté étreignait alors. Oubliez les voisins de serviettes bruyants. Oubliez les constructions qui défiguraient le rivage. Oubliez les navires de croisière au loin. Il n'y avait plus que le délassement merveilleux que procuraient les flots. Valentine revint de ses courses. Elle n'était pas peu fière d'avoir pu aligner quatre mots de ses vagues souvenirs d'espagnol, bien que la caissière la prit de court en s'adressant initialement à elle en catalan. Elle glissa une grosse clé rouillée dans la serrure de la porte cochère, donna un tour, appuya avec son pouce sur une languette de fer qui actionnait le mécanisme, et la porte s'ouvrit dans un cliquetis métallique. Ce geste lui rappela celui qu'elle faisait enfant, pour entrer dans la grange des parents de Laura, qui leur avait servi des années durant de repère. Elle s'y retrouvait souvent après les cours, et y avait échafaudé toutes sortes de plans dont il ne lui restait désormais plus aucun souvenir. Elle grimpa la volée d'escalier, et parvint au premier. L'étage était vide. Elle déballa ses commissions et les rangea sur les étagères qui lui étaient réservées. Elle n'avait pas inspecté la cuisine avant de partir au supermarché, et réalisa à cet instant avec effroi qu'il n'y avait pas de four. En passant au coup de vent durant la visite guidée avec Jonathan le Belge, elle avait vu une pièce qui lui avait paru décente et plusieurs appareils électroménagers qui avaient été de bon augure. L'absence de four était une véritable déception. C'était ce détail qui lui rappelait que quelqu'un d'autre avait meublé et agencé cette maison, et qu'elle ne faisait qu'y passer. Alors qu'elle s'apprêtait à remplir la bouilloire, elle remarqua que l'un de ses nouveaux colocataires avait eu l'amabilité de laisser sa vaisselle dans l'évier. Elle choisit parmi l'été celui qui lui déplaisait le moins, se demandant pourquoi il ne restait que du matcha et des décoctions détoxifiantes. Cette mince succession de broutilles suffit pour la hérisser. Il n'y avait rien de calamiteux, c'était seulement l'habituelle douche froide en emménageant dans un nouvel endroit, qui venait rappeler que ce n'était pas encore chez soi. Ce sentiment disparaîtrait. Même à Brooklyn, où elle n'avait jamais réussi à se sentir à l'aise en présence de ses colocataires, elle avait fini sans peine par ressentir du réconfort lorsqu'elle rentrait le soir dans son quartier, puis s'installait dans le confortable salon. Elle fit un saut par sa chambre pour récupérer ses affaires tandis que le thé infusait. Elle revint le chercher puis sortit sur la terrasse. Le ciel bleu s'était habillé de gris, et une ou deux gouttes perlèrent dans sa tasse tandis qu'elle gravissait l'escalier extérieur vers le chapiteau, dernier étage de la maison. Contrairement au reste du bâtiment dont la toiture plate formait une grande terrasse, la salle de travail qui avait dû être construite ultérieurement avait un toit pentu. L'un des pans était entièrement vitré, rappelant les ateliers d'artistes. À l'intérieur, pour amoindrir la lumière du soleil lorsque celui-ci visitait son zénith, des voiles multicolores avaient été suspendues à la manière des tentes bédouines. Le sol de céramique était recouvert à l'entrée d'un tapis rouge défraîchi. Deux femmes étaient présentes à cet instant dans la pièce. L'une avait pour siège une boule d'équilibre, alors que la seconde se tenait debout, devant un standing desk, un bureau réglable qui avait été juché à hauteur de torse. Ce mobilier de bureau permettait d'alterner les postures pour ne pas passer son temps courbé sur son moniteur. Le reste de l'ameublement était assez sommaire, trois tables et des chaises. Au mur, un poster au design moderne clamait « Coffee is always a good idea », symptomatique de cette curieuse mode de la colorification du café. En entendant Valentine entrer dans la pièce, les deux bûcheuses vinrent se présenter. La grande brune avec un carré s'appelait Irina. C'était une Polonaise de 34 ans. Elle était développeuse d'applications sous Android. Plus petite, Federica portait de longs cheveux soyeux qui tombaient au niveau de sa taille. Sa peau mate était satinée et rehaussait l'éclat de grands yeux noisettes. À 32 ans, elle venait de Colombie mais n'y habitait plus depuis des années. La conversation fut brève mais chaleureuse. Valentine s'assit sur une chaise des plus conventionnelles et s'attela également à sa besogne. L'après-midi défila. Les quelques gouttes se changèrent rapidement en pluie que l'on entendait marteler sur la toiture. Versée par cette atmosphère apaisante, Valentine portait son thé à ses lèvres distraitement et perdait par moments son regard au dehors, comme hypnotisée en regardant ruisseler l'eau sur les carreaux. Federica, la Colombienne, remarquant son air absent, lui dit que le chapiteau exerçait cette magie lors de ces grosses averses qui annonçaient l'automne. Toutefois, d'ordinaire, l'air était chaud et lourd, et la pièce, avec ses lucarnes, avait le tort de devenir vite étouffante. Le soir venu, Valentine fit la connaissance de Rohan, tandis qu'elle farfouillait dans les placards de la cuisine pour trouver des épices. Né en Inde, il avait grandi dans une banlieue de Londres, où il avait adopté un accent du cru, émaillé parfois d'intonations punjabi. Malgré de gros efforts de concentration, il lui fallait demander à Rohan de répéter ses phrases assez souvent. Elle se contentait d'acquiescer de la tête, dans un signe d'entendement, ne saisissant généralement pas davantage la seconde fois. Elle finirait par se faire l'oreille. En Angleterre, ainsi que Rohan aimait à commencer ses phrases, il y a beaucoup d'aliments qui sont introuvables ici. À Londres, à tous les coins de rue, tu as des restaurants super sympas et très variés. C'est facile si tu veux manger coréen ou éthiopien ou... C'est parce que les Anglais sont prêts à avaler tout sauf de la nourriture anglaise, le coupa Federica. J'ai passé 5 ans à Londres, je connais. De toute façon, moi, je suis en Espagne pour manger espagnol, pas coréen ni éthiopien. Ça fait longtemps que vous êtes digitanomade ? Demanda Valentine. 4 ans, déclara Federica avec enthousiasme. 3 mois, répondit Rohan. Avant Barcelone, j'étais à Berlin. J'ai vraiment aimé. Je vous laisse y retourner après l'Espagne, mais ça me plaît bien aussi ici. On verra. Déjà, je vais aller en Inde. Enfin, c'est pas décidé encore, car mes tantes et ma grand-mère vont me tanner pour que j'accepte leur aide pour me marier. Tu veux te marier ? Pas maintenant. Je ne m'inquiète pas trop, cela dit. Jamais nos connaissances ne laisseraient leur fille aller à un rendez-vous avec un digital nomade. Ma nouvelle réputation d'aventurier me protège des traditions. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce mode de vie de vagabond, d'ailleurs ? Interrogea Valentine.
Rien. J'ai été contactée pour un nouveau boulot, expliqua Rohan de façon hâtive. J'en avais assez des transports en commun, ça avait l'air cool de bosser à distance, j'ai décidé que la vie de plancton de bureau n'était plus pour moi.
Tu n'as pas conscience de la boîte de Pandore que tu viens d'ouvrir, Valentine. Bon, à plus tard, salua-t-il en partant s'installer dans la salle à manger pour regarder une émission de télé-réalité culinaire, sa pizza décongelée au micro-ondes à la main.
« Moi, j'ai fait un burn-out », annonça Federica. « Depuis, j'ai décidé de vivre un peu. »«
Tu faisais quoi pour faire un burn-out ?» interrogea Valentine en comprenant que Federica n'allait pas avoir besoin d'être trop titillée pour se mettre à discourir.
« Je bossais pour un grand groupe de luxe »,
commença Federica en s'asseyant à la table de cuisine pour peler des légumes pour la salade que les deux nouvelles comparses allaient partager. J'étais responsable des analyses de marché et de la concurrence. C'était ma première expérience à la sortie de mes études. Le boulot de mes rêves, ça m'a dévoré. Au début, tout allait bien. Puis rapidement, nous nous sommes retrouvés complètement sous-staffés. Les départs n'étaient pas remplacés. J'avais quasiment jamais eu d'augmentation alors que ma charge de travail ne faisait que croître. Jamais la moindre reconnaissance. Il y avait toujours plus de projets, je ne savais pas où donner de la tête. Quand mon manager est parti, ils ont passé mon équipe sous un autre directeur qui se moquait complètement de ce que nous faisions. Je portais 3 ou 4 casquettes en même temps, je bossais presque tous les week-ends, je n'avais rien sur quoi me recentrer en dehors du travail. J'avais l'impression de ne plus avoir aucune vie. Le soir, quand je rentrais, j'avais juste envie de pleurer. Ensuite, mon copain a rompu avec moi. Sur le moment, j'avais trouvé ça super égoïste de sa part. Je me suis jetée dans le boulot encore plus. C'est lui qui a déménagé. Moi, je n'avais pas le temps de m'occuper de chercher un nouvel appartement. Puis je suis partie aux Canaries une semaine en vacances avec des copines. Il n'y avait pas de réseau là-bas et ça m'a forcé à déconnecter un peu, même si je conduisais jusqu'au Starbucks pour utiliser le Wi-Fi et répondre à mes emails tous les matins. Le jour du départ, j'ai eu une crise de vomissement, j'avais la boule au ventre. À mon retour, j'ai complètement craqué. Et cette semaine-là, j'ai annoncé que je prenais 3 mois sabbatiques et finalement, je ne suis jamais rentrée. Clairement, il était temps, on dirait. Je prépare une vinaigrette pour l'assaisonnement ?
Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une sauce à la française, carrément.
T'emballe pas, hein, c'est archi basique. J'ai des amis qui font des burn-out aussi, mais ils s'entêtent, ils ne veulent pas démissionner. Ils racontent des histoires horribles de choses qui leur arrivent au bureau, mais dès que ce sont les autres qui en parlent, ils se mettent sur la défensive.
Mais pour moi, c'était pareil. J'avais conscience que j'étais malheureuse, que je restais quand même un peu dans le déni. Je trouvais du réconfort dans les aspects positifs, même si j'en voyais de moins en moins. Je savais que c'était un boulot prestigieux, je n'aimais pas l'image que je croyais voir dans les yeux des autres où j'étais celle qui avait été incapable de tenir le coup. Tout n'avait pas été noir. Je ne voulais pas lâcher et tout recommencer à zéro non plus. Je ne pouvais pas avoir fait tous ces efforts pour rien et perdre ma position. Je vivais mon mal-être comme un échec et je culpabilisais vis-à-vis de mes collègues. Du coup, puisque mon esprit s'accrochait, c'est mon cœur qui a lâché.
Elle est magnifique cette salade, j'adore les couleurs. Attends, je la prends en photo pour mon fil Instagram.
Comment t'as dit pour le nom de la sauce ?
Vinaigrette, répéta Valentine. C'est vraiment rien d'archifou, tu sais. Il s'est passé quoi alors ensuite pendant ton congé sabbatique ?
Je suis retournée en Colombie... poursuivit Federica en reposant son portable, puis en se servant. Ça faisait des années que je n'y étais pas revenue. Une de mes grand-mères était décédée quelques semaines avant. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais pas vu. Je suis restée un mois, j'ai revu tout le monde. Enfin, les vivants. Mes cousins avaient eu des enfants, je ne les avais jamais rencontrés. J'ai réalisé que je perdais complètement le lien avec ma famille. Ça a été un second électrochoc. Ensuite, je suis allée habiter à Miami chez une cousine pendant 2 mois. C'était génial. Je me suis mise au yoga et à la méditation. Tous les jours, j'allais au studio, puis à la plage, puis je sortais. De vraies vacances. Tout le stress est remonté subitement quand il a fallu songer à retourner à Londres. Après ces 3 mois de pause, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Mes nouveaux amis de Miami m'ont convaincue que je n'avais pas besoin de rempiler, et ils m'ont décidé à démissionner pour de bon. Je suis rentrée à Londres, je suis allée récupérer mes affaires au bureau, j'ai fait mes cartons chez moi, j'ai tout mis dans un box, j'ai rendu mon appartement, et je suis repartie en Colombie 1 mois, histoire de décider ce que j'allais faire maintenant. Depuis, je voyage. David ! Salut les filles ! Entonna le brun trapu qui faisait son entrée. Oh, de la chair fraîche. Je m'appelle David, fit-il à Valentine en lui serrant la main. Valentine, se présenta-t-elle un peu intimidée par ses yeux brillants et ses muscles saillants. Je ne voulais pas interrompre votre conversation, continuez comme si je n'écoutais pas. Je vais vous admirer de loin en préparant ma pitance. Va jouer à la dinette du côté de Rouen plutôt, conseilla Federica. Tu as déjà entendu l'histoire de ma vie de toute façon et tu vas m'interrompre tout le temps. David est absolument adorable, enchaîna-t-elle en se tournant vers Valentine. Il est coach de CrossFit et nous faisons du sport tous les deux le matin. Il m'a aidé à mettre en place une nouvelle routine sportive journalière ici. Je vais écrire un article pour mon blog dessus. Où en étais-je ? Tu as abandonné ton appartement ? Où sont tes affaires à présent ? Elles sont restées dans le box à Londres durant 1 an. Puis quand j'ai vraiment choisi de poursuivre cette vie, je me suis dit qu'elles m'encombraient plus qu'autre chose et manqueraient en Angleterre. En outre, ça ne me faisait pas de mal de ne plus avoir cette dépense tous les mois. Je suis repassée là-bas pour voir des amis et j'en ai profité pour vendre les meubles et donner les vêtements. J'ai encore une caisse de bibelot qui prend la poussière chez une copine. Il représente trop de souvenirs. Ça fait 3 ans que je lui dis que je vais les récupérer, mais je n'ai nulle part où les entreposer et je ne peux pas me résoudre à les jeter. Pour le moment, c'est le statu quo. Quand j'ouvrirai mon studio de danse méditative, j'irai les secourir. Un studio de danse méditative ? Répéta Valentine. Tu t'entendrais tellement bien avec ma copine Laura de New York. C'est un vrai projet. J'ai rencontré tout un tas de gens qui faisaient l'un ou l'autre à Bali. Je pense que les deux s'allient à merveille. Je me sens tellement mieux depuis que j'ai retrouvé un équilibre intérieur et que je m'écoute. Je veux partager ça. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps d'aborder le sujet, mais en quittant mon travail, j'ai démarré un blog de bien-être et j'ai une super communauté. Ça fait chaud au cœur d'aider tous ces gens. C'est marrant. J'ai fait connaissance avec une digital nomade à Tulum qui est blogueuse vegan. Ah oui ? Comment s'appelle-t-elle ? Je ne sais plus. Reconnue Valentine, qui d'ailleurs n'était pas sûre de l'avoir jamais su. Elle venait de quelque part en Europe du Nord ? Il y en a tellement ! C'est dur de se faire un nom et de se financer, pour être honnête. Moi, je n'ai jamais abandonné ma fibre de femme d'affaires. J'ai une activité de FBA en parallèle. Ça veut dire Fulfilled by Amazon, précisa Federica devant le visage inquisiteur de son interlocutrice. Tu vends un produit en ligne, excepté qu'Amazon se charge de tout à ta place. Nul besoin de gérer les inventaires, la livraison, les retours, le service consommateur et tout ça. Tu t'occupes juste de trouver un fournisseur et de mettre en place les bons mots-clés pour apparaître dans les recherches des clients d'Amazon. Tu as quand même besoin de concevoir un produit et de le développer, non ? Mais pas du tout ! Tu trouves un produit existant pour lequel il y a de la demande, mais qui a peu de vendeurs sur Amazon et qui est mal mis en valeur. Éventuellement, tu demandes au fournisseur d'améliorer un ou deux aspects qui sont reprochés aux produits déjà disponibles. Tu fais de belles photos professionnelles pour faire rêver les gens, voire tu augmentes un peu le prix, ça va donner l'illusion que ton produit à toi est de meilleure qualité. Les gens achètent, Amazon expédie, et toi, tu encaisses. Ça marche pas du tout, cette combine ! Leur cria David depuis le salon, clairement plus intéressé par leur conversation que par les malheureux candidats derrière leur fourneau qui se faisaient hurler dessus dans le poste de télévision. J'ai essayé avec 2 produits, et j'ai juste perdu mon investissement. Même s'il est entreposé dans les dépôts d'Amazon, tu es obligé de payer pour le stock en amont. Donc c'est 5 000 € avancés, et pour que ton produit fonctionne, il faut un coup de chance. Si vous voulez une jolie poupée gonflable licorne et une perche à selfie pour vous prendre en photo dedans, je suis votre homme, j'en ai des centaines à écouler encore. C'est parce que tu as mal choisi tes produits, lui répondit Federica. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Il faut se donner du mal pour identifier un produit pour lequel l'offre est tendue et faire un beau marketing. Ce sont les amis de ma cousine à Miami qui m'ont fait découvrir ce type de revenu. J'ai suivi pendant 3 mois la formation en ligne de l'un d'eux, il m'a donné une réduction de 20% sur son cours, et je paie une licence mensuelle pour utiliser un logiciel en ligne qui liste pour moi les produits d'Amazon en fonction des statistiques de vente et de mes critères. C'est comme ça que je débusque les niches qui vont marcher. Le marketing léché ensuite, c'est mon domaine. Je suis influenceuse et j'ai travaillé dans le luxe après tout. Tu vends quoi, hein ? Ah, ça, je ne peux pas te dire. C'est secret. Sinon, quelqu'un va me piquer l'idée et je peux faire une croix sur ma poule aux œufs d'or du moment. Tu me ressens en vin, s'il te plaît ? Pour l'approvisionnement, tu fais comment ? s'enquit Valentine tout en vidant la bouteille dans leur verre.
Avec leur réseau, les gens de Miami m'ont mise en contact avec l'un de leurs amis qui trouve et gère les fournisseurs à Shenzhen pour le compte des étrangers. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à faire. Tous les 4 mois, je dois lancer de nouveaux produits car les concurrents arrivent sur mon marché du moment et lancent une guerre des prix. Je commence à connaître la musique maintenant. J'ai une mécanique bien rodée. Ça me génère des arrivées d'argent régulières pour financer ma vie et mes voyages. Alors, si je résume bien le FBA, une usine quelque part en Chine fabrique des bouées licornes, un grossiste les vend à David par l'intermédiaire d'un contact pour étrangers à Shenzhen, elles sont stockées dans un entrepôt d'Amazon qui va se charger de la livraison et du service client derrière, le consommateur achète sur Amazon la bouée de David, qui est peut-être la même que les autres disponibles sur le site, tout ça parce que David est censé avoir choisi les bons mots-clés et des photos qui font vie, et ensuite, tout ce petit monde empoche une commission ? Voilà, valida Federica. Ou pas, malheureusement, se lamenta David dans l'autre pièce. Ça ne me semble pas très feng shui pour aller avec ton blog de bien-être, ironisa Valentine. Tu mélanges tout, décréta Federica. Moi, je ne fais pas de feng shui. Mon créneau est celui de la méditation et du consciousness roadmapping. Traduction littérale en français, des feuilles de route pour élever sa conscience, glissa Jonathan tout en entrant dans la cuisine et prenant son air le plus pédant. Bon, allez, arrêtez de raconter vos arnaques sur Internet pour vous la couler douce sous les cocotiers. Je suis sûre que Valentine n'a rien compris non plus, fit le Belge qui avait ouvert la porte à Valentine lors de son arrivée le matin même. Si, je crois que j'ai pigé. Dis donc, s'offusqua Jonathan. Je viens de te sauver de cette conversation, soutiens-moi un peu. Moi, j'ai toujours rien compris. Allez, revenez un peu dans la cuisine, Roland et David. Federica, tu mets en pause le récit de ta vie. Moi, je débouche une autre bouteille et nous allons faire parler la nouvelle un peu.